franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, nous vous proposons de réécouter ou de découvrir l'histoire d'un mystère dramatique. La disparition de l'avion de la Malaysia Airlines, sorti brutalement des écrans radars et des contacts radio alors qu'il volait au-dessus du golfe de Thaïlande. Une histoire dont les plaies sont loin d'être cicatrisées. D'abord parce que le drame est récent, il remonte à mars 2014, et surtout parce que l'avion a disparu sans laisser de traces, ni de pistes, rien, débouchant sur cette question lancinante. Comment un objet aussi gros, de plus de 60 mètres de long, peut-il disparaître de cette façon? Telle est l'histoire du vol MH370 de la compagnie nationale malaisienne qui a décollé dans la nuit du 8 au 9 mars 2014 de Kuala Lumpur pour un vol qui devait durer 6 heures et 20 minutes. Or, ce Boeing 777, l'un des avions les plus sûrs qui soit, ne posera jamais ses roues sur l'aéroport de Pékin, sa destination. C'est une demi-heure après son décollage, alors qu'il quitte l'espace aérien malaisien pour s'enfoncer dans la nuit noire au-dessus du golfe de Thaïlande, que l'avion va se volatiliser, ne plus jamais donner signe de vie. Avec lui, ce sont 227 passagers et 12 membres d'équipage qui disparaissent. Parmi eux, 4 Français, dont la femme et les enfants du Français Guylain Vatrelot, que notre reporter Anaël Verzo a rencontré et que vous pourrez entendre en seconde partie d'émission. Cette affaire du vol MH370 est unique, car il n'y a ni avion, ni boîte noire, ni survivant pour apporter une quelconque explication. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle, face à la loi du silence de plusieurs pays et face à l'opacité de l'enquête menée par les autorités malaisiennes, que le malaise est immense. Incidents techniques, défaillances humaines dans le cockpit, détournements, missiles, dans ce désert d'éléments matériels. Et à cause de ce désert, on ne peut rien écarter et on ne peut rien savoir. Alors, que s'est-il passé dans cette nuit du 8 au 9 mars au-dessus de l'océan Indien, plus de 10 000 mètres d'altitude? Lors de la première diffusion de ce récit dans Affaires Sensibles, le 18 décembre dernier, l'écrivain français à succès Marc Dugain, passionné d'aviation et dont l'essentiel de l'œuvre romanesque est adossé à la réalité historique, Hoover, Kennedy, le Kursk, la Première Guerre, il était notre invité parce qu'il est parti enquêter jusqu'aux Maldives. Il en avait publié un dossier de 8 pages dans Paris Match avec des hypothèses, disons, troublantes. Aujourd'hui, et à la lumière d'un morceau de Boeing 777 retrouvé sur une plage de la Réunion fin juillet dernier, si tant est que cela puisse apporter une quelconque lumière, nous reviendrons sur cette affaire avec Michel Polaco, le spécialiste des questions aéronautiques et de défense aussi pour Radio France. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyen Guyen, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Bruno Poncelet.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Avant l'épisode de la disparition du MH370, la compagnie aérienne Malaysia Airlines, fierté du pays, a une réputation qui laisse parmi les meilleures au monde en termes de satisfaction de ses passagers. On la retrouve ainsi estampillée 5 étoiles à partir de 2009 au prestigieux classement Skytrax. Elle est également élue à plusieurs reprises compagnie aérienne asiatique de l'année. Niveau sécurité, la compagnie répond aux standards exigeants des compagnies les plus en pointe. Elle remplit parfaitement ses obligations vis-à-vis de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Elle fait même figure de bon élève, car au cours de la dernière décennie, elle n'a connu que 2 incidents techniques en vol, et il faut remonter 19 ans plus tôt pour trouver un accident mortel. Et puis sa flotte est récente, ses avions plutôt neufs. Bref, la Malaysia Airlines est une compagnie très fréquentable. Long courrier vers l'Europe, le Moyen-Orient ou les États-Unis, Malaysia Airlines arrose aussi toute l'Asie avec des vols moyens courriers. Une liaison par jour, par exemple, entre Kuala Lumpur et Pékin, essentiellement sur Boeing 777-200, un appareil lancé en 1995 et considéré par beaucoup de compagnies aériennes à travers le monde comme le standard de l'appareil long courrier, tant par son rayon d'action, qui peut atteindre 14 000 km, que par sa fiabilité mécanique. Cet avion type long cigare ressemble un peu à l'A340, dont il est le concurrent direct. D'ailleurs, pour Michel Polaco, consultant aéronautique pour Radio France, s'il y a un problème, il n'est pas à chercher du côté de la compagnie ni de l'avion.
C'est une bonne compagnie, avec des équipages sérieux, bien formés, qui exploitent une flotte d'avions modernes. On est dans une situation où ni l'avion ni la compagnie ne peuvent être a priori des explications.
Ça paraît clair, effectivement, ce n'est probablement pas de ce côté-là que se niche la vérité. En cette nuit du samedi 8 mars 2014, il est minuit 40, heure de Kuala Lumpur. Sur la piste de décollage, le Boeing 777 du vol Malaysia Airlines 370 attend. Destination Pékin. Temps de parcours prévu, 6h20. À bord, 227 passagers, en grande majorité des touristes chinois, mais aussi quelques Américains, des Européens et autres nationalités. On compte 12 membres d'équipage. Aux commandes de l'appareil, Zahari Bin Ahmad Shah, un pilote expérimenté de 54 ans. Pour ce vol, il est assisté de Farik Bin Hamid, son copilote, plus jeune, il a seulement 27 ans. Après l'autorisation de la tour de contrôle, le commandant pousse la manette de gaz, l'appareil accélère, rotation comme disent les pilotes, il décolle. Alors que l'appareil grimpe, pour atteindre son altitude de croisière à 35 000 pieds, soit un peu plus de 10 km d'altitude, tout va bien dans le cockpit, la routine. Pendant la demi-heure qui suit son décollage, l'avion respecte à la lettre son plan de vol. Il fait route plein nord en direction des côtes du Vietnam qu'il est censé longer pour rejoindre Pékin. À 1h19, le pilote envoie son dernier message au contrôleur malaisien. Il leur souhaite bonne nuit. Dans les instants qui suivent, l'appareil sort du contrôle radar. Là encore, rien de plus normal. Quelques minutes plus tard, à 1h22, le transpondeur qui sert à localiser et identifier l'avion est subitement débranché, tout comme l'autre système, l'ADS-B, qui, lui, précise son positionnement par satellite. Selon les données des contrôleurs aériens, l'avion aurait subitement viré de bord pour faire chemin inverse et retourner sur la Malaisie. En inclinant le manche, le pilote aurait emmené l'avion à 45 000 pieds, ce qui a fait dire par la suite qu'il y avait eu un incident technique à bord ou une tentative de détournement. Toujours est-il qu'à ce moment-là, personne ne sait ce qui se passe dans le cockpit, mais on a compris que quelque chose ne tourne pas rond. Peu après, le troisième système, l'ACARS, qui envoie les données techniques du vol à Boeing, n'émet plus. Désormais, sans transpondeur, ni système ADS-B, et sans ACARS, l'appareil n'est plus détectable. Au Vietnam, on tente de contacter l'appareil. Aucune réponse. Les autorités vietnamiennes demandent alors à l'avion commercial présumé le plus proche d'entrer en contact avec le vol MH370. Son pilote tente d'échanger avec la radio. Il n'entendra pour seule réponse que des marmonnements sur fond de parasites. À 1h38, le contrôle aérien vietnamien appelle alors Kuala Lumpur pour l'informer de la perte de contact. Et là, le centre des opérations de Malaysia Airlines répond que des échanges de données sont toujours possibles avec l'appareil et que celui-ci serait au-dessus de l'espace aérien cambodgien, 300 km à l'est de sa trajectoire initiale. Dès lors, les éléments troublants, pour ne pas dire contradictoires, vont s'enchaîner. À 2h22, un radar militaire malais localise l'appareil dans la mer d'Adaman, à 370 km au nord-ouest de la Malaisie. Il ferait route plein ouest. Autre élément étonnant, alors que tous les contacts, radio, transpondeur, ACARS et ADS-B sont coupés avec l'avion, les log on request, ces signaux qu'envoie le motoriste Rolls-Royce à l'appareil, continuent d'être reçus pendant plusieurs heures. L'appareil ne répond pas mais accuse réception des messages envoyés par le motoriste qui assure cette procédure normale avec tous les appareils équipés de ses moteurs dans le monde entier. Au centre de crise de Malaysia Airlines, les informations deviennent de plus en plus contradictoires, jusqu'à admettre que la localisation supposée de l'avion plein nord au-dessus du Cambodge répond à des projections, des calculs, oui, mais pas à la réalité. 5h30, le centre de coordination du secours aérien à Kuala Lumpur est activé. Une heure plus tard, alors qu'il aurait dû se poser à Pékin, l'avion est déclaré disparu, l'annonce est faite aux familles. À 7h13, enfin, on informe la presse. S'affiche alors en rouge sur le tableau des arrivées de l'aéroport de Pékin le message clignotant « Flight from Kuala Lumpur, arrival time 6 EM30, status delayed », puis dans les instants qui suivent « cancelled », supprimé dans le langage aéronautique, peut-être même disparu. Les médias annoncent la suite.
Une ligne rouge et une case noire. Le vol MH370 n'est jamais arrivé à Pékin. Parti de Malaisie, l'appareil a disparu des radars 2 heures après son décollage. Les familles patientent, dans l'angoisse.
Je n'ai aucune information. Au début, ils ont juste dit qu'il était retardé. Et là, on me donne un document qui me demande d'attendre.
Le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, comme celui-ci, avait décollé hier de Kuala Lumpur, direction Pékin. Il reste pour l'instant introuvable. Les recherches se concentrent sur cette zone du golfe de Thaïlande, mobilisant les marines vietnamiennes et malaisiennes.
Il s'agit d'une zone à la frontière entre l'espace malaisien et le contrôle vietnamien.
Les familles ont été rassemblées dans un hôtel à Pékin. 239 personnes se trouvaient à bord, parmi lesquelles 154 Chinois et 4 Français. Insupportable attente.
Dans le grand hall de l'aéroport de Pékin, les familles et proches des victimes sont sous le choc. Peu d'informations filtrent depuis le centre de crise de Malaysia Airlines. On sait juste que l'avion est déclaré disparu, faute d'apparaître sur les radars et de ne répondre à aucune fréquence. Personne ne sait encore ni pourquoi, ni comment. Évidemment, quand un avion a décollé et qu'il est affiché « cancelled » sur l'aéroport d'arrivée, c'est mauvais signe, en tout cas épouvantablement anxiogène pour les familles et les proches qui attendent.
Mon fils a seulement 40 ans. Comment est-ce possible de le remplacer?
Laissez-la.
Pourtant, élément très surprenant et qui ne sera rendu public que bien plus tard, l'appareil déclaré disparu depuis près d'une heure reçoit encore à ce moment-là les fameux signaux log on request venant du motoriste pour avoir des informations sur les moteurs via satellite. Le vol MH ne répond pas mais confirme par un dernier signal de faible intensité enregistré à 8h19 et 37 secondes avoir reçu le message. Dans les heures qui suivent, les autorités vietnamiennes et malaisiennes lancent une première opération de recherche dans la mer du golfe de Thaïlande. À Kuala Lumpur, par la voix de son premier ministre, la Malaisie se refuse pour l'instant à tout commentaire, mais précise que les communications ont été perdues lorsque l'avion est passé dans l'espace aérien vietnamien. Pendant ce temps, sur zone, plusieurs navires militaires croisent et recherchent d'éventuels débris. Tandis que dans le ciel, les avions de reconnaissance vietnamiens qui quadrillent le secteur identifient, eux, un élément suspect. Des traînées de carburant parallèles sur plusieurs centaines de mètres. Des taches qui pourraient provenir de l'avion disparu. Le soir, l'envoyé spécial de France 2, Baptiste Favlos, fait le point sur les recherches.
D'énormes, d'impressionnants moyens de recherche ont été déployés dans cette mer de Chine du Sud par la plupart des pays limitrophes. Il fait nuit maintenant en Asie et donc les recherches aériennes, elles, ont été interrompues. En revanche, des navires philippins, malaisiens, vietnamiens et même chinois continuent de patrouiller dans la zone pour tenter de repérer d'éventuels débris. Mais le problème, c'est où patrouiller puisqu'on sait où l'avion a disparu mais on ne sait pas où il s'est abîmé, s'il s'est abîmé. Et donc du coup, c'est forcément l'incompréhension ici à Pékin. Je me trouve juste devant l'hôtel Lido dans lequel sont regroupées les familles des victimes, des Chinois en grande majorité puisqu'il y avait 154 Chinois à bord de cet appareil et forcément il y a des scènes d'angoisse, des scènes d'attente, la plupart des yeux sont rivés sur les écrans de télévision qui diffusent les journaux de la télévision chinoise et qui apportent finalement les seules informations. Alors il y avait 14 nationalités au total dont des Français, vous l'avez dit, 4 Français, 3 membres d'une même famille, une femme de 52 ans, son fils de 17 ans, sa fille de 14 ans ainsi qu'une autre personne qui accompagnait la famille. Il s'agit d'une jeune fille de 18 ans qui avait la double nationalité française et chinoise. Ils étaient tous scolarisés au lycée français de Pékin. La maman elle-même était la vice-présidente de l'association des parents d'élèves et forcément c'est le choc au lycée français. Une assistance psychologique a été mise en place lors de la rentrée des classes qui aura lieu lundi ici à Pékin.
À bord de l'appareil, parmi les 239 victimes probables, figurent en effet les 4 Français, dont la femme et les 2 enfants de Guilin Vatrelot, dont vous entendrez le témoignage tout à l'heure.
Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crie quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle non plus de densité. C'est drôle non plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, boïc. Est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses
d'azur aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de ténue usure, chimère, ce fantôme peuple ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures, du jour ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boïga, boïga, et tes mouvements en fond de majesté. Boïga, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïga, boïga, et tes mouvements en fond de majesté. Boïga, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à ton chasse, enfin comme un vieil éléphant, à ton chasse, enfin, enfin comme un vieil éléphant. Et tes mouvements en fond de majesté. Boïga, boïga, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses.
Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines en mars dernier. Le lendemain de la disparition, certains médias révèlent que l'appareil a probablement changé de cap pour se dérouter plein sud. Les autorités malaisiennes, qui dans cette histoire ne vont cesser de se contredire, soufflant ainsi le chaud et le froid sur l'enquête, démentent fermement. Selon certaines sources, l'avion aurait même pu voler plusieurs heures encore avant de s'écraser. Alors que le flou s'épaissit, le général Rozali Daoud, chef de l'armée de l'air malaisienne, confirme enfin que le périmètre de recherche est agrandi.
Nous avons regardé les informations enregistrées par le radar et nous nous sommes rendus compte qu'il existe une possibilité réelle que l'avion ait fait demi-tour. Faire demi-tour signifie dévier du chemin de vol et revenir en arrière. Donc, pour cette raison, la zone de recherche a été élargie au moment où je vous parle à la mer de Chine méridionale. Et nous avons déjà demandé à nos amis indonésiens de nous assister dans cette tâche.
Les recherches s'orientent vers l'océan Indien, la mer d'Andaman, mer de Chine méridionale. Elle mobilise d'importants moyens matériels et humains. Il faut dire que la zone à couvrir est énorme, près de 90 000 km², la superficie d'un pays comme le Portugal. Jeanne Assouli, reporter pour France 3, commente cet énorme dispositif déployé dans le golfe de Thaïlande.
Une véritable armada à la recherche du Boeing disparu. 40 navires, 22 avions et hélicoptères de toute la région sont à la recherche du vol MH370 sur une zone désormais élargie. En fin d'après-midi, l'aviation vietnamienne aurait repéré des débris au large de l'île de Tho Chu, où hier des traces d'hydrocarbures avaient été repérées. Le mystère plane toujours sur l'origine de la disparition de l'avion. A-t-il décroché pour s'abîmer en mer? A-t-il explosé en vol? Autant de questions pour les enquêteurs qui évoquent une possible désintégration en plein vol.
Au fur et à mesure, la zone de recherche s'agrandit, se déplace, un peu comme si l'on recherchait une aiguille dans une botte de foin. À ceci près que l'aiguille mesure 63 mètres. Alors, on le retrouvera, forcément. C'est ce que tout le monde pense à ce moment-là. Dès lors, la presse fait l'écho de plusieurs hypothèses qui amènent de nouvelles questions. D'abord, quand un avion disparaît, par réflexe, on explore la piste terroriste. Et dès le lendemain de la disparition de l'avion, les autorités malaisiennes ouvrent une enquête pour acte terroriste, précisément. Car il se trouve que deux passagers munis de faux passeports, l'un italien et l'autre autrichien, auraient embarqué en Thaïlande, puis à bord de l'appareil à Kuala Lumpur. L'italien, dont le passeport a été volé, témoigne d'ailleurs face aux caméras. Il n'était pas à bord.
J'ai demandé à mes amis pourquoi ils s'inquiétaient autant pour moi. Et on m'a dit, regarde sur Internet. Il parle d'un Italien disparu. J'ai dit, c'est impossible, je suis en Thaïlande.
Les États-Unis envoient sur place des agents du FBI. Après enquête, la piste terroriste vacille. Interpol révèle en effet que les deux individus présents à bord de l'appareil étaient des clandestins iraniens et qu'ils ne sont pas fichés ni chez eux ni dans les fichiers de la CIA. En tout cas, pas comme des individus recherchés ou dangereux. Rien d'autre ne sera rendu public sur cet aspect de l'affaire, si ce n'est que beaucoup commencent à s'interroger. Comment, dans un grand aéroport international, des passagers ont-ils pu embarquer à bord d'un avion avec des passeports déclarés volés? Les autorités malaisiennes ont-elles failli à leurs devoirs de contrôle et de sécurité? Ou bien, cache-t-on délibérément la vérité sur l'identité de ces deux personnes? Quelques jours plus tard, des experts de Boeing se rendent sur zone. Et on apprend après analyse que les nappes de carburant découvertes par l'avion vietnamien correspondent en fait à celles d'un pétrolier qui a dégazé pour ventiler ses cuves. Dans le même temps, Chinois et Américains mobilisent plusieurs satellites afin de passer la zone au peigne fin. Le mercredi 12 mars, 4 jours après la disparition, Pékin annonce avoir identifié des débris qui pourraient appartenir à l'avion disparu. Théorie démentie par la marine vietnamienne qui se rend sur place quelques heures plus tard, elle aussi. Alors que les recherches sont de nouveau au point mort, élément nouveau. Des enquêteurs américains déclarent dans le Wall Street Journal que l'avion aurait pu voler encore 4 heures et pourrait se trouver bien au-delà de la zone de recherche qui était déterminée. À Kuala Lumpur, comme on le fait depuis le début, on dément. Près d'une semaine vient de se dérouler depuis la disparition de l'avion, il n'y a toujours aucune piste probante. Du côté des familles, la colère s'ajoute à l'angoisse. Beaucoup sentent qu'on veut leur cacher la vérité. Mais quelle vérité ? Le 17 mars, la police malaisienne mène une perquisition au domicile de 2 pilotes. Chez le commandant, on découvre un simulateur de vol sur lequel, avec un Boeing 777, il se serait entraîné à atterrir sur des pistes très courtes. Dans la presse européenne et américaine pointe alors la piste d'un détournement islamiste car les pilotes étaient musulmans. Pour les proches du commandant, toute cette histoire ne tient pas à la route.
Je l'ai vu il y a moins d'une semaine avant le décollage. Je l'ai vu rapidement, mais il m'a semblé comme d'habitude. C'est un homme jovial, qui aime les gens. Faire quoi que ce soit qui pourrait faire du mal à plus de 200 personnes et leurs familles, non, ça ne lui ressemble pas.
Même perquisition menée chez son copilote. Bon, rien de spécial. Il a bien quelques fautes de conduite à son dossier, mais rien de plus. Non, ces deux-là n'ont pas un profil de terroriste. Encore moins de pilote kamikaze. Autre élément troublant, celui-là. Des familles et des proches des disparus signalent aux autorités chinoises qu'ils ont vu la tonalité lorsqu'ils appellent sur des téléphones. Ils l'ont entendu, cette tonalité. Ils ont appelé sur des téléphones de passagers de l'avion. Certains téléphones sont encore connectés sur les réseaux sociaux plusieurs heures après la disparition de l'appareil. Cet épisode a alimenté beaucoup de spéculations, notamment celle selon laquelle l'appareil se serait posé quelque part. Il n'en reste pas moins que, d'un point de vue technique, il est possible qu'un téléphone sonne toujours bien qu'il soit éteint. Une histoire de couverture de réseau un peu compliquée, pas forcément déterminante, mais qui a nourri la machine à fantasmes. En tout cas, l'épisode de téléphone portable qui continue de sonner a mis le feu aux poudres en Chine, où plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour protester devant l'ambassade de Malaisie à Pékin. Devant les journalistes, ils réclament la fin des mensonges.
Ils nous cachent tellement de choses. Et même s'il n'y a pas de preuve que l'avion se soit crashé, eux, ils nous disent que les recherches sont terminées et que personne n'a survécu. Il n'y a aucune preuve. Moi, je demande à voir ce qu'ils ont. Ils n'ont même pas de données, ni même fait d'analyse pour affirmer qu'il s'est crashé.
Enfin, il y a la question de la cargaison de l'appareil. Les bordereaux sont à moitié remplis. Et il semble qu'on ait chargé plusieurs caisses de piles au lithium dans les soutes du 777 avant son envol de Kuala Lumpur. Ces mêmes piles au lithium que l'on retrouve dans nos téléphones ou tablettes peuvent se révéler hautement instables si elles sont mal transportées. Exemple probant, celui de l'incendie d'un avion d'UPS en 2010 à Dubaï. Il avait provoqué la mort de l'équipage et la destruction de l'appareil. Une vraie question, celle de la cargaison. Nous y reviendrons.
France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines. Notre invité, c'est Marc Duguin, l'écrivain Marc Duguin, écrivain enquêteur. Pour le coup, il a enquêté, il continuera d'enquêter sur cette affaire. Nous le retrouverons dans quelques minutes. près d'une dizaine de jours après la disparition du MH370, la société britannique Inmarsat, à l'aide du dernier signal de log on request reçu par l'appareil et d'une série de calculs algorithmiques, annonce que le Boeing aurait pu suivre une trajectoire en arc de cercle qui l'aurait amené soit plein nord, sur le continent asiatique, là où il y a des radars au sol, et on aurait pu ou dû le repérer, soit plein sud, en plein océan Indien, à proximité des côtes australiennes, là où justement il n'y a pas de radar. Choisissant la seconde option, la communauté internationale va déployer d'importants moyens sur zone. Un satellite français ira même jusqu'à annoncer avoir retrouvé d'étranges débris. Cette piste, aussi coûteuse que chronophage, se révélera vite être une impasse et amènera vite une nouvelle polémique. A-t-on voulu, avec la piste australienne, égarer un peu plus l'enquête ? Depuis le 9 mars, date de la disparition officielle du vol MH370 d'un Malaysia Airlines, aucun élément de l'enquête n'a officiellement débouché sur quelque chose de probant. Pour les familles des victimes, toutes les pistes n'ont cessé de s'écarter de la vérité. Mais quelle vérité, là encore ? Pour tenter de faire avancer les choses, une plainte a été déposée en France et une aux États-Unis pour que la justice soit saisie et que de nouveaux moyens soient mis à disposition pour faire la lumière sur cet événement. Car pour la première fois dans l'histoire du transport aérien, 9 mois après une catastrophe aérienne, l'appareil n'est toujours pas retrouvé. Ce qui pour les proches des victimes est forcément une double peine.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Et notre invité aujourd'hui, c'est Michel Polacco, le spécialiste des questions aéronautiques et de défense pour Radio France. Un homme qui sait tout sur tout ce qui vole et, en l'occurrence, sur ce qui ne vole pas aussi, quelquefois. Bonjour Michel.
Bonjour Fabrice.
Alors, on va donc reparler de ce drame teinté de mystère, un mystère épais, donc la disparition de cet avion de la Malaysia Airlines dans la nuit du 8 au 9 mars 2014. À la lumière d'un fait d'actualité, donc on a retrouvé une pièce fin juillet sur une plage de la Réunion, s'appelle un flaperon, vous me direz ce que c'est exactement, et je disais en intro, si tant est que cette pièce puisse apporter de la lumière, et apparemment cette pièce, ce flaperon, apporte des choses, c'est une découverte importante, vous le confirmez. D'abord, dites-nous ce qu'est ce flaperon, c'est un bout d'aile?
Le flaperon, c'est sur les ailes des avions, hein, y a des parties mobiles, qui sont des gouvernes, qui peuvent soit servir à augmenter la surface portante de l'aile, soit permettre de gouverner l'avion, c'est-à-dire s'incliner à droite, à gauche, monter, descendre, etc. Le flaperon, c'est sur la partie arrière de chaque aile, droite et gauche. Ça se trouve entre les volets, qui augmentent la surface de l'aile de l'avion, et puis les ailerons, qui permettent d'incliner l'avion, et pas loin des aérofreins, qui permettent aussi de changer un peu l'aérodynamique pour réduire, par exemple, la vitesse ou l'altitude. Donc le flaperon est une petite gouverne mobile, qui n'est pas directement piloté par l'équipage, qui est plutôt piloté par les systèmes du pilotage automatique et qui permet de stabiliser l'avion. Bon, vous voyez, ça fait 2 mètres de large à peu près sur une aile qui fait 20 mètres de long, quoi.
Bon, donc, première question, est-ce qu'on est certain que cette pièce appartient à l'avion dont nous parlons ?
Alors, le tribunal français, le procureur, a dit « cette pièce, a confirmé que cette pièce était bien une pièce qui provenait d'un Boeing 777 ». Et c'est très facile à voir, puisque le numéro de part catalogue, hein, le numéro de pièce dans le catalogue des pièces détachées de Boeing, permet de préciser que c'est bien un flaperon qui vient d'une aile droite de Boeing 777. Ensuite, est-ce que ça vient bien du Boeing 777 de la Malaysian Airlines?
Ah bah oui.
Alors là, la démonstration n'est pas faite, mais la déduction est faite. La démonstration n'est pas faite parce qu'on n'a pas trouvé sur ce flaperon, même pour l'instant, en tout cas, en faisant quelques investigations, je ne sais pas si on en est encore arrivé au démontage, d'éléments qui permettent de le démontrer, de le prouver, de le garantir. Mais ces pièces-là, il n'y en a pas sur étagère. Vous voyez, il n'y a pas, vous appelez Boeing, vous dites je voudrais un flaperon droit de Boeing 777, ils vont dire, monsieur,
ça marche pas comme ça.
On ne fait pas. Un flaperon, il est livré avec son avion et il va vivre toute la vie de l'avion. Et si un jour il arrive qu'un camion de Catherine qui vient apporter des plateaux repas ou je ne sais quoi, vider les toilettes de l'avion, touche l'arrière de l'aile et abîme le flaperon, eh bien on va trouver un chaudronnier pour le réparer ou on va éventuellement dire à Boeing qu'il faut remplacer le flaperon et Boeing va soustraire un flaperon sur ses chaînes de montage d'avions et puis va commander à son sous-traitant un flaperon spécialement, etc. Mais il n'y en a pas en stock, en catalogue chez Boeing. Donc il n'y a pas de flaperon en stock. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des flaperons qui se sont échappés d'avions qui se sont écrasés
avant?
Alors il y a eu 4 accidents de Boeing 777 dans l'histoire. C'est un avion qui vole depuis le début des années 90. Un qui s'est écrasé à Londres sans faire aucune victime, avec une double panne de moteur suite à un givrage du circuit carburant et juste à l'entrée de piste d'Heathrow. Donc celui-là, il est entier, il est arrivé entier au sol et voilà. Il y en a un deuxième qui s'est écrasé à Los Angeles en approche finale et c'est quand même très loin de... Et on a retrouvé tous les morceaux et tout a été ramassé et rassemblé. Le troisième, c'est celui qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine après l'affaire du MH370
en juillet
de l'année dernière. C'est loin l'Ukraine et puis pour nager de l'Ukraine jusqu'à l'océan Indien, c'est pas facile parce qu'on peut pas nager de l'Ukraine à l'océan Indien. Et puis, de toute façon, les pièces de cet avion, elles aussi, ont été retrouvées sur place. Donc, il n'y a pas de flaperons qui traînent en mer. Il n'y en a pas qui traînent dans les océans. Encore moins dans l'océan Indien. Encore moins près de la Réunion. Donc, ça veut dire que ce flaperon provient obligatoirement du MH370. Et c'est une information extrêmement importante.
Alors, c'est donc 33 jours qu'on l'a retrouvé. Ça paraît long, 33 jours sans nouvelles. Peut-être me direz-vous que c'est normal, parce qu'il y a tout un tas d'études à faire sur ce flaperon. Qu'est-ce qu'on étudie précisément pour avoir des informations et quelles informations cherche-t-on ?
Alors en fait, si vous voulez, il faut remonter un petit peu à la base. Depuis la disparition de l'avion, on a essayé de savoir pourquoi, comment, dans quelles circonstances il avait disparu. On sait qu'à un moment donné, alors qu'il est en route pour Pékin et au milieu du golfe de Thaïlande, il dit au revoir au contrôle indonésien, malaisien, et puis que, à partir de là, manifestement, il coupe ses moyens de transmission, c'est-à-dire qu'il devient étanche sur le plan radioélectrique. Le transpondeur radar, le répondeur radar est coupé. Là, le système ACARS qui permet de transmettre des informations techniques, en l'occurrence des informations sur l'état des moteurs à Rolls-Royce, est coupé. Les liaisons radio cessent totalement. Donc cet avion n'est quasiment plus visible, sauf par des radars militaires qui, eux, voient les masses métalliques dans le ciel, mais il n'est plus visible par des radars qui, eux, attendent une réponse des masses qui se déplacent dans le ciel. Et il y a une seule chose qui n'est pas coupée, et on va s'en apercevoir assez vite, c'est le SATCOM, le système de téléphone par satellite qui permet à des passagers ou à l'équipage d'avoir des liaisons air-sol et solaire, parce que probablement les gens qui ont coupé ça depuis le cockpit, parce que ça se coupe depuis le cockpit, n'ont pas dû penser que le SATCOM, même quand on ne s'en servait pas, continuait à essayer de détecter la bonne position du satellite avec lequel il peut entrer en connexion. Exactement comme votre téléphone portable qui, de temps en temps, recherche la cellule la plus proche pour pouvoir communiquer avec elle. Absolument. Et lui permettre d'être en liaison. Donc là, on a appris ça par la société Inmarsat, qui possède des satellites géostationnaires et qui permet de faire ces liaisons par SATCOM. Quand on a appris ça par Inmarsat, Inmarsat, évidemment, a immédiatement essayé d'obtenir quelques informations. Et quelques jours après, et avec peu de précision, ils ont dit, bon, ben, nous, selon nos premières analyses, l'avion serait dans le sud de l'océan Indien. Donc on a commencé à faire des recherches dans cette région-là. On n'a rien trouvé, ni des débris, ni quoi que ce soit. Et en même temps, on a dépouillé les bandes radars de la plupart des radars militaires des pays qui environnent l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, etc. Et on a pu voir que cet avion, à partir du moment où il avait, si je puis dire, éteint tous ses feux de bord, a continué à voler jusqu'au détroit de Malacca sur une route intelligente, pilotée, pas par hasard, pas un avion qui va à volo, n'importe comment, jusqu'au détroit de Malacca. Puis à partir du détroit de Malacca, il n'y a plus de zone couverte par des radars, donc on perd complètement sa trace. Et finalement, la dernière trace qui reste, c'est que cet avion est resté en vol, et ça on le sait grâce au Royal Institute of Navigation, qui a analysé les rares signaux, un par heure, envoyés par l'avion au satellite Inmarsat et avec tentative de retour. Et ça a permis de déterminer, un, que l'avion était encore en vol, 7 heures après qu'il ait complètement disparu, que deuxièmement, ses systèmes de navigation étaient encore en bon état, puisque l'antenne de l'avion était bien pointée sur le satellite. Donc ça, c'était très intéressant. Et troisièmement, que cet avion avait suivi une droite, en gros, nord-sud, qui pouvait l'amener soit vers le Kazakhstan au nord, soit vers le sud de l'océan Indien, au large de l'Australie au sud. Et comme il y a des radars partout vers le nord, en direction du Kazakhstan, on en a conclu que c'était la route sud qu'il fallait privilégier.
Bien. Mais moi, je reviens à ma pièce, quand même.
Et ben voilà. Donc, alors, s'il est dans le sud de l'océan Indien, cet avion, quelque part, et bien qu'on n'ait retrouvé aucune pièce, c'est très intéressant, 15 mois après, de retrouver une pièce d'avion qui correspond, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à cet avion, parce que ça ne peut pas être un autre avion. Et donc, c'est la première pièce matérielle qui permet de dire, un, oui, cet avion s'est écrasé en mer, puisque une pièce a dérivé en mer. Deux, il s'est bien écrasé dans le sud de l'océan Indien, puisque la pièce a dérivé dans le sud de l'océan Indien, d'accord, en allant vers l'ouest, et qu'elle atterrit jusqu'à la Réunion. Troisièmement, on a retrouvé quelques autres débris qui méritent d'être analysés, sur lesquels d'ailleurs on a extrêmement peu d'informations. Quatrièmement, on en retrouvera peut-être d'autres à l'île Maurice, à Madagascar, sur les côtes d'Afrique, du sud de l'Afrique, peut-être dans quelques mois, faut être patient. N'oubliez pas que pour le vol Rio-Paris à F447, dont on connaissait la précision de la disparition à moins de 10 minutes près, on a mis 2 ans à retrouver. Ouais. La zone d'incertitude.
Elle fait combien, la zone, elle fait en tout.
Si vous voulez, vu que Inmarsat permet de dire, l'avion était encore en vol à 8h16 du matin, puis on n'a plus de nouvelles. Dernier ping, 8h16. À partir de là, cet avion, il avance en gros à 850 km/h. Il peut encore avoir fait à peu près une heure de vol sans envoyer de signal.
Donc ça fait
un gros
territoire.
Il peut avoir fait demi-tour. Il peut avoir fait demi-tour, il perd un moteur, par exemple, l'avion part en sens inverse, il peut avoir fait demi-tour. Donc on peut dire qu'on a éventuellement un cercle de 1600-1800 km de diamètre d'incertitude. Ou bien on peut dire qu'on a un arc de cercle de 1800 km de hauteur avec quelques dizaines, voire centaines de kilomètres de largeur.
C'est deux fois
donc
la France.
Ça fait une zone de 1 million de kilomètres carrés d'incertitude, c'est deux fois la France. Ouais. Donc vous voyez, pour chercher sur une zone qui représente deux fois la France et qui représente environ 40 fois la zone de recherche du vol AF447, on n'a pas fini de chercher et les moyens qui sont mis pour faire les recherches sont extrêmement réduits et très peu suffisants par rapport à l'immensité de la tâche.
Alors donc ce que vous me dites c'est que on continue, ça peut être long parce que la surface à explorer
est gigantesque.
Et qu'en fait, il se passe des choses. Effectivement, cet avion, il a disparu, mais il n'a pas complètement disparu. On retrouve une pièce, on va peut-être en retrouver d'autres.
Donc c'est ça que vous dites, en fait,
qu'il se passe des choses.
Ah oui, il s'est passé plein de choses, si vous voulez. On a retrouvé d'abord sa trace. Deuxièmement, on a bien vu que la trajectoire qu'il avait suivie après qu'il ait coupé tous ses contacts, c'était une trajectoire intelligente. Troisièmement, on a des radars qui ont permis de le suivre jusqu'au détroit de Malacca. Quatrièmement, on a le système Inmarsat qui permet de nous dire qu'il est allé plein sud, probablement jusqu'à épuisement de carburant, vu que l'heure correspond à peu près à la fin du carburant à bord. Alors après, comment est-ce qu'il s'est crashé? Est-ce qu'il s'est posé en mer? Est-ce qu'il y a un moteur qui s'est arrêté avant l'autre? Est-ce qu'il est parti en vrille, en virage engagé, en je ne sais quoi? Est-ce qu'il s'est détruit en vol ou est-ce qu'il s'est détruit en tapant la surface de l'eau? Ça, on le sait pas. Cet avion est au sud de l'océan Indien. Un élément matériel nous permet de le confirmer, c'est ce flaperon.
Oui.
Et puis maintenant, il faut faire des recherches sérieuses. Et il y a beaucoup de travail à faire, aussi bien de remonter les courants si c'est possible, que de draguer, de cartographier le fond des océans et puis de faire des recherches.
Michel, on va revenir ensuite avec vous sur ce qui a pu se passer parce que ça a généré pas mal d'hypothèses et je retiens que vous m'avez dit les gens qui, donc les gens qui, on ne parle pas des pilotes, quand on dit les gens, hein, c'est peut-être des éléments extérieurs.
Je ne sais pas qui.
On verra. Alors on va d'abord écouter, parce que c'est important, on va écouter Guylain Vatrelot, donc le père de cette famille française victime de ce drame. Je rappelle qu'il a perdu sa femme et deux de ses enfants. Et il dit qu'il lui reste deux raisons de continuer à vivre, le fils qui lui reste bien sûr, et la vérité concernant cette tragédie. Il ne va pas baisser les bras. En tout cas, c'est ce qu'il expliquait à notre reporter Anel Verzo le 18 décembre dernier.
On est avec Guylain Vatrelot à Paris, un peu plus de 9 mois après l'accident.
Oui. Absolument. Cet accident est arrivé le 8 mars. Je dis accident, mais c'est peut-être pas un accident d'ailleurs. Je préfère dire l'incident. Pour moi, ce n'est pas un accident.
Là, on parle de la disparition de votre femme et de deux de vos enfants.
Oui. Ma femme et deux de mes enfants, donc Ambre et Adrien, qui avaient 14 et 17 ans, qui revenaient de vacances passées en Malaisie tous les trois. Et moi, je devais les rejoindre suite à cette semaine de vacances qu'ils avaient passée là-bas. Moi, je travaillais déjà à Paris. Nous devions tous rentrer à Paris en juin. Et j'allais les rejoindre à Pékin, où nous habitions à l'époque, pour que je passe leur deuxième semaine de vacances avec eux. Et j'ai donc été le dernier à prendre la nouvelle, parce que j'étais dans l'avion entre Paris et Pékin au moment où l'incident est arrivé. Et donc j'étais accueilli à la descente de l'avion par l'ambassade de France qui m'a expliqué que tout était terminé. C'est le consul de l'ambassade de France qui m'a accueilli à ma descente d'avion et je le connaissais et qui m'a dit « Guylain, il est arrivé un malheur à ta famille, leur avion est disparu, on ne sait pas où il est, mais globalement il m'a dit « il n'y a pas d'espoir ».
Et après, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre le moment où on vous a appris la disparition de l'avion et les premières recherches.
D'abord, je suis resté une semaine à Pékin tout seul. Enfin, mon fils et ma sœur et ma belle-sœur sont venus me rejoindre au bout de 48 heures. Donc il y a eu plusieurs moments. Il y a eu la première semaine où cette semaine a été entre le désespoir et un peu d'espoir, parce que finalement l'avion avait disparu, mais on ne savait pas où il était. On était branchés sur CNN et BBC, qui passaient 24 heures sur 24 des émissions là-dessus, qui étaient sur place, et on nous disait l'avion a peut-être été détourné, l'avion a atterri quelque part, donc on a été dans cette semaine-là sans arrêt entre l'espoir et le désespoir. Il y avait des recherches en mer, mais on ne donnait pas de réponse. Et c'est un peu plus tard qu'on a commencé à nous dire que l'avion était parti dans le sud de l'océan Indien et que vraisemblablement il était tombé dans l'eau, jusqu'à ce fameux SMS. On nous prévient par SMS le 24 mars pour nous dire tout est fini, l'avion est tombé dans...
Qui vous l'annonce ? Le gouvernement français ?
Non, Air Malaysia, Malaysian Airlines, m'envoie un SMS en me disant « Regardez la télé, le Premier ministre malaisien, et on nous dit « L'avion est tombé dans l'océan Indien, tous les passagers sont vraisemblablement tous morts. » Voilà comment on me l'annonce. Ouais.
Vous vivez en France maintenant ?
Maintenant, je vis en France, oui.
Avec votre fils ?
Bah, mon fils est étudiant, oui, donc il est sur Paris, moi aussi, enfin, je le vois le week-end, oui. Lui, il a la vie devant lui, donc il faut qu'il se reconstruise très vite. Il est dans les plus belles années de sa vie. Il ne faut pas que ça tourne en boucle, comme pour moi, donc il faut que je lui montre que je mène ce combat, et il faut que je le protège de ce combat aussi, c'est pas à lui de mener le combat. Lui, il a autre chose à faire. Pour lui, c'est vraiment trop douloureux d'aller là-bas.
Ce qui se passe aussi, c'est qu'il s'agit d'une disparition. Il y a toujours l'incertitude dans la disparition. On doit se poser la question, mais peut-être qu'ils peuvent revenir.
Ben, il y a toujours l'incertitude et il y a toujours l'espoir qui a été retrouvé. Il n'y a pas un corps qui a été retrouvé. Donc on se dit, il y a toujours l'espoir. Et puis de toute façon, il y a des gens, toutes les semaines, qui nous envoient des messages d'espoir. Ils sont prisonniers au Pakistan, ils sont prisonniers en Afghanistan, ils sont prisonniers à Diego Garcia, sur la base américaine. Les familles prient encore, on pense encore qu'ils peuvent revenir, que c'est encore possible, mais bien sûr. Parce que de toute façon, on n'a aucune preuve du contraire. On ne peut pas se reconstruire non plus. C'est pas possible. On ne peut pas faire un enterrement. Même un truc tout bête, je suis allé voir un cimetière un jour en me disant je vais faire quand même quelque chose. Parce que bah, faut bien qu'ils soient quelque part. Ils peuvent pas être nulle part. Et un truc tout bête, le cimetière me dit « Mais on peut même pas mettre une plaque avec... c'est pas possible. On peut mettre éventuellement en mémoire de ou un truc, mais on peut pas mettre une plaque, c'est pas possible. Enfin, je n'ai toujours pas de certificat de décès, donc administrativement, ils sont toujours vivants aussi. Personne ne veut ne me donner de certificat de décès. Donc de toute façon, administrativement, ils sont toujours vivants. Donc vous imaginez les problèmes de tous les jours. Donc voilà. » Voilà.
Et en janvier dernier, un mois après cette interview, les autorités de Malaisie ont déclaré officiellement disparu 239 passagers et membres d'équipage de cet avion. Donc c'était la douleur d'un proche de victime, trois victimes parmi ses tout plus proches. Alors, dans une partie de l'interview qu'on avait diffusée, qu'on ne rediffuse pas aujourd'hui, Guida Vatroulos fait part de ses doutes, de ses soupçons, du complot pour lui. Alors, est-ce qu'il y a, Michel Polaco, est-ce qu'il y aurait une vérité indicible, une bavure, un avion victime d'une roquette, que sais-je encore ?
Des bavures, je pense qu'il y en a, mais vous allez voir lesquelles. D'abord, on ne peut que partager la peine de Guylain Vatrolos et se dire que des drames et des catastrophes comme ça, ça peut nous arriver à tous et que donc il ne faut jamais regarder ça avec légèreté. Deuxièmement, c'est bien normal quand on a une telle peine que l'on espère. Et je dois dire que moi-même, j'ai fait partie de ces journalistes qui ont espéré, lorsque cet avion a disparu, qu'il s'agissait d'un détournement et que peut-être cet avion était posé sur une île quelque part pour un chantage quelconque, etc. Bon, il est vrai qu'au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois, cette hypothèse ne tenait plus la route. Et il est vrai que depuis qu'on a retrouvé ce flaperon, je dirais qu'on a la démonstration, hélas, que cet avion s'est écrasé en mer et que donc je crois, hélas, il n'y a plus d'espoir. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point-là. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des fautes, des erreurs, des choses comme ça ? Bien évidemment. Souvenez-vous, le vol Rio-Paris. Il disparaît à 2h du matin, on le déclare officiellement disparu à 8h du matin. Pas dans 6h, c'est le bordel, c'est le désordre le plus total. On confond les numéros de vol, on confond tout un tas de choses, les coordinations entre les centres de contrôle sont nulles. Et les vraies recherches vont commencer plus de 6 heures après la disparition de l'avion. Après que l'avion, en fait, se soit écrasé, on le sait maintenant. Pour cet avion, c'est pareil. Il a disparu à 00h40, heure locale, et pendant des heures et des heures et des heures, les centres de contrôle se sont parlé, la compagnie, etc. Et puis, on n'a pas vraiment déclaré cet avion disparu, alors que, imaginons qu'il ait été détourné par des terroristes, et imaginons que les délais d'alerte aient été respectés, c'est-à-dire qu'immédiatement, 30 minutes après la fin du dernier signal envoyé par cet avion, on ait déclaré la détresse ou la disparition, enfin la catastrophe, hein, puisque vous avez alerfa, détresse-fa, inserfa et détresse-fa, qui sont les trois phases de disparition. Peut-être qu'on aurait fait décoller des avions de combat qui peut-être auraient retrouvé cet avion, qui peut-être l'auraient suivi, qui peut-être l'auraient accompagné et qui nous auraient au moins permis d'avoir des informations. Or, c'est vrai que ça a été un désordre inouï. Bon, maintenant, est-ce qu'on nous cache des choses sur, je dirais, sur ce qui se dit là, sur où est cet avion, etc. Je ne le pense pas. Je pense que il n'y a pas assez de moyens qui sont mis en œuvre pour retrouver cet avion. Je le pense très sincèrement. Mais je pense aussi qu'il y a eu un travail admirable qui a été fait, notamment par les Britanniques de la Royal Institute of Navigation, parce que les informations qui ont été tirées du satellite Inmarsat sont vraiment exceptionnellement intéressantes, même si un spécialiste qui s'appelle Duncan Steele les a un peu contestées, les a corrigées, et que lui, il estime qu'il peut y avoir quelques centaines de kilomètres d'erreur sur les calculs qui ont été faits. Mais je pense que tout le monde a fini par se mobiliser, que le rapport qui a été sorti par les Malaisiens il y a quelques mois, au bout d'un an après la catastrophe, est un rapport qui est très intéressant, qui est très lisible. Je ne pense pas qu'il y ait des choses qui soient volontairement faussées dedans.
Donc il n'y a pas de complot.
Oui, il y a un mystère.
Mais il n'y a pas de complot.
Il y a un mystère, mais il n'y a pas de complot.
Et cette hypothèse selon laquelle l'avion se serait approché trop de l'île de Diego Garcia, base américaine de renseignement sur les satellites, les câbles sous-marins et compagnie, et peut-être autre chose, je ne sais pas. Est-ce que ça tient et qu'il aurait été abattu?
Bon, c'est ça la vue. Je ne crois pas à cette théorie, mais admettons, si vous voulez, je vous la laisse comme possible. Mais il n'en reste pas moins que cet avion allait quand même de Kuala Lumpur à Pékin.
Oui.
Il n'allait pas à Diego Garcia, ni aux îles Maldives, ni à La Réunion, ni
est-ce
à
est-ce qu'il a pas fait une manœuvre parce qu'il, bon, était,
alors,
parce qu'il était...
S'il a fait une manœuvre, alors est-ce que l'équipage est devenu fou, l'équipage a été forcé, violé, etc. Donc évidemment, on arrive à la théorie qui est la mienne, c'est que cet avion a été détourné. Est-ce qu'il a été détourné par des gens qui voulaient en tirer un bénéfice financier? Est-ce que c'était des criminels qui voulaient échanger des vies ou des matériaux qui étaient à bord de cet avion, ou faire un chantage? Est-ce que c'était des politiques? Est-ce que c'était des suicidaires? Est-ce que c'était... Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour cet avion, et comme ça, changer de route, suivre une route intelligente, couper tous ses moyens de communication, cet avion a été détourné.
Un pilote n'aurait pas fait ça, on est bien d'accord.
Mais pourquoi pas un pilote?
Oui,
il y a bien un pilote de Germanwings qui a décidé, au-dessus du territoire français, de se suicider avec cet avion. Non, pourquoi pas un pilote? Quelqu'un à bord de cet avion, des gens ou une personne à bord de cet avion qui en ont pris le contrôle et qui, à un moment donné, ont décidé de le dérouter et qui ont réussi à le dérouter pendant un certain temps. Et puis ensuite, il se passe quelque chose à bord de cet avion. Ma conviction personnelle, c'est qu'après le détroit de Malacca, peut-être que comme dans le vol 93, des gens se sont battus, l'avion a été dépressurisé ou je ne sais quoi. À mon avis, il n'y a plus de vie à bord à partir du détroit de Malacca. Cet avion suit une route totalement droite, a priori à la même altitude de 35 000 pieds que celle qu'il avait à peu près en passant dans cette zone. Il ne se passe plus rien pendant des heures. Est-ce que quelqu'un qui aurait voulu se suicider aurait attendu 6 heures pour aller se précipiter au fond de l'océan en attendant qu'il n'y ait plus de carburant dans l'avion? Je ne le crois pas. Des terroristes, je pense que probablement ils auraient voulu aller quelque part pour exercer un chantage, comme des criminels, ou aller s'écraser sur une tour, un bâtiment symbolique, etc. Donc moi, à mon avis, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que les gens qui avaient mené ce projet criminel, terroriste, dramatique, suicidaire, ont été dérangés, que voilà, et puis cet avion a terminé à volo. Voilà ma intime conviction.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'était plus piloté.
Non. Par un pilote automatique qui maintenait un cap, c'est tout. Et une altitude.
On sait que c'est un peu comme les chercheurs d'or, situation de catastrophe aérienne, c'est la boîte noire, évidemment, qui dit tant de choses. Les boîtes noires, absolument. Il y a les boîtes noires de conversation et les boîtes noires qui donnent les éléments
techniques. Il y a les conversations,
hein,
puis vous avez plein d'enregistreurs dans les avions.
Bon, alors, si on en trouve un, d'accord, mais dans quel état, un an et demi après?
Ça, c'est pas grave, ça.
Je peux vous dire que le jour... Un an et demi,
Oui, ça, je peux vous dire. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'épave. Ouais. Voilà. Si on trouve l'épave, on retrouvera les boîtes. Si on trouve les boîtes et les éléments et les pièces du cockpit dans lesquelles il y a des mémoires, à partir de là, on aura, je dirais, toutes les explications techniques. Ce qui ne nous donnera pas obligatoirement les explications humaines et politiques. Mmh. Ça ne nous donnera peut-être pas tout le pourquoi, par exemple. Mais on saura si cet avion, clairement, quelle trajectoire il a suivi, comment, qui a donné quels ordres au pilote automatique, comment ça s'est passé, s'il a été dépressurisé. Sur l'enregistreur de voix, on aura peut-être personne qui parle, parce qu'à mon avis, il n'y avait plus personne dans le cockpit, mais on entendra des alarmes, on aura tout un tas de confirmations de quantité de choses. C'est certain. Maintenant, voilà, ça ne nous lèvera peut-être pas tous les doutes. Mais encore une fois, ce qui est compliqué, c'est de retrouver l'épave. L'épave, c'est les boîtes. Toutes les boîtes qu'on a retrouvées dans l'histoire, même 10 ans après, elles ont parlé. Et pourtant, des boîtes qui étaient beaucoup moins modernes que les boîtes qu'il y a aujourd'hui. Donc ça, c'est pas un problème. Si elles marchaient quand l'avion a décollé, on retrouvera des données dans ces boîtes, c'est sûr.
Dernière chose, Michel Polaco, il reste 30 secondes, question difficile, mais on sait que l'accidentologie en avion, malheureusement, en aviation, permet de faire des progrès. Malheureusement,
bien sûr, ce serait arrêt, bon,
on aimerait ne pas passer par ça, mais ça passe par là. Quelle leçon faut-il tirer de cet épisode-là dans une vision globale de ce qu'est la sécurité aérienne? Il reste 20 secondes, je suis désolé.
Écoutez, là, je pense que c'est un problème de sûreté, c'est-à-dire un problème de police, un problème de psychologie, c'est un problème d'être humain. Je ne crois pas que ce soit un problème technique, mais néanmoins, ça va faire un progrès sur une chose, c'est qu'on va vraiment, dans les années qui viennent, équiper les avions de telle manière qu'on puisse les suivre vraiment et jusqu'au bout quand il arrive quelque chose. En revanche de ça, n'oubliez pas que tous les incidents sont exploités. On n'a pas besoin que des accidents, et même on peut se passer des accidents. Et ce sont les incidents qui font progresser la sécurité.
Merci, merci infiniment Michel Polaco pour la précision de toutes ces informations que vous nous avez apportées. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles, la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'histoire de la journaliste Anna Politkovskaya, assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou.